Bonsoir, Daniel Mermet, je m'appelle André Wiesel, j'habite Joinville-le-Pont. Et tu me déranges bien souvent, mais j'aime bien ce que tu fais. Par contre, là, tu vois, aujourd'hui, ce qu'on entend sur France Inter, à la place de là-bas, si j'y suis, bah, finalement, ça repose, tu vois, dans tout ce climat de grève et de machin. Alors, pas trop de grève à France Inter, mais un peu de bonne musique comme ça de temps en temps, ça fait pas de mal. Profitons-en deux secondes.
Oui, ben je trouve ça super quand France Inter est en grève, parce qu'on écoute d'autres radios, et qu'est-ce qu'on entend sur les autres radios? Que les gens sont furieux, sont en colère contre les grèves, et curieusement à France Inter, tous les gens qui sont interviewés soutiennent les grèves, sont comprennent, enfin bref, on sait que les preneurs de son de France Inter sont tous d'extrême gauche, tous syndiqués, France Inter de toute façon fait partie du lobby de la fonction publique, et France Inter... eh bien, est aussi crédible quand elle parle des grèves que quand TF1, Bouygues parle du BTP. Voilà, alors France Inter, c'est une radio de désinformation. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est rester en grève toute l'année, si vous voulez. Hein, ça nous fera des vacances. Salut.
Ouais, salut, Daniel. Enfin, en fait, comme c'est la grève et qu'il n'y a pas France Inter, donc je tourne le bouton du poste. Et puis, bah, je tombe sur pas mal de chaînes privées, quoi. Et bah c'est là où on voit un petit peu là lors de cette grève ce que ça sera quand il y aura plus de services publics et quand il y aura plus de radio comme France Inter. Et vraiment bah par moment je préfère éteindre la radio parce que il y a vraiment pas grand chose quoi. Allez, salut.
Bonjour et vive la grève sur France Inter. Plus de pub et plus de c'est l'heure de la pub. La pub qui nous envahit sur France Inter. Alors, rien que de la bonne musique, plus de pub, vive la grève. Bien sûr, c'est des conneries, mais c'est tout ce que j'ai trouvé à dire pour parler de la publicité sur France Inter. Merci et au revoir, c'était Yvan.
Ça y est, Daniel, ils sont en train de charger là. Je sais pas si t'entends les bombes lacrymaux, ça y est, c'est parti. C'est parti. Les journalistes sont en train de filmer, il y a un monsieur qui est tombé à terre. Il est bloqué. Ils empêchent les photographes de s'approcher pour prendre des photos. Ça y est, il y a plein de lacrymos. Ils ont empêché un journaliste de prendre la photo. Ils nous font reculer, nous aussi. Voilà. Les gens partent en courant et c'est parti. J'essaye de compter les camions. Écoute, écoute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 camions. Plus 1, 2, 3, 4 quarts de police. Voilà. Tous les gens sont en train de courir et ils sont en train d'embarquer le type qu'ils avaient coincé à terre tout à l'heure, dans un quart de police. Voilà. Je vois pas le reste, je suis trop loin. Très efficace, hein. Les gens sont toujours en train de courir sur le pont, et les CRS avancent toujours. Voilà. En direct. J'ai les yeux qui pleurent, là. C'est très drôle. Non, c'est du cynisme, hein.
Et voilà, c'est en direct, un vrai direct, hein, avec un portable, avec un simple portable, on appelle ça des reportables. Nous voilà, de retour, vous avez compris, avec les messages que vous avez laissés sur et dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, on va entendre d'autres messages. Aujourd'hui, on va se retrouver avec l'équipe du Monde Diplomatique autour du numéro de ce mois-ci, mais surtout, évidemment, autour de ce qui nous préoccupe, j'allais dire en France, mais pas seulement en France, c'est-à-dire la réforme des retraites. Et puis un témoignage d'une manifestante dans la rue, une personne qui travaille à l'INSEE et qui nous donnera des indications et des éléments d'appréciation extrêmement passionnants. Alors, mais je dois vous dire auparavant que nous organisons, là-bas, si j'y suis, organise ici même à la maison de la radio, avec une bande de joyeux de riz, vous savez, ceux avec qui nous avions fait le PDJC, c'est-à-dire le procès de Jacques Chirac, vous vous souvenez, ce procès pour rire, hein, enfin, en hommage au flagrant délire. Eh bien, cette même équipe, on va la retrouver jeudi 12 juin à 20h, ici même à la Maison de la Radio, au studio 104 de la Maison de Radio France, c'est-à-dire au 116 avenue du Président Kennedy, 75 116 Paris. Et à partir de 20h, donc, on aura une séance avec les épreuves du bac, le banquet du bac philo, et avec de l'écrit, avec de l'oral, ce sera gai, joyeux, naïf et coloré, et avec des dessinateurs tels que Cabu, Charbe, Kerleroux, Wozniak, etc., qui font des beaux dessins projetés, vous connaissez le truc, avec les fabuleux troubadours, le gouvernement, ils seront là aussi, participeront aux épreuves. Voilà, alors, le banquet du bac philo, c'est donc jeudi 12 juin, et vous pouvez dès à présent prendre vos invitations à partir de 10h demain dans le hall A, le grand hall de la maison de la radio, donc pour le jeudi 12 juin. Ce sera tous les matins à partir de 10h. Vous pourrez dans le hall de la maison de la radio prendre vos places gratuites, évidemment, dans la limite des places disponibles. Vous connaissez la formule, donc aujourd'hui le diplôme, la manif, l'INSEE, les retraites, mais auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base, si j'y suis, avec des échos, d'autres reportables, vous allez voir, de tous les coins de France, de Lille, de Lyon, d'Avignon, de Montpellier, de la Seine-Saint-Denis, de Toulouse, de Joigny, de partout, vos voix.
Salut Daniel, salut l'équipe, c'est Thierry à Lyon, dans la manif. J'appelais pour dire qu'il y avait beaucoup de privés dans la manif aujourd'hui. Donc c'était pour que vous le disiez, parce qu'on compte pas trop sur les autres pour le dire. Allez, ciao et bonne lutte, hein.
Retrait du projet Sillon, so, solidarité. Retrait du projet Sillon, so, solidarité. Retrait du projet Sillon, so, solidarité. Retrait du projet Sillon.
Oui, Sarkozy, il était très chaud. On est des enseignants et on occupe l'inspection académique d'Avignon. Jusqu'à plus soin. Voilà, on est déterminés et puis j'espère que tu parleras de nous un peu à la radio. Ça sera sympa. Voilà, merci beaucoup. C'était Marianne d'Avignon. À bientôt. Ciao.
Oui, bonjour Daniel Mermet, en direct de la manif de Lille aujourd'hui. L'AFPA organise la formation professionnelle pour adultes dans la rue avec le service public, touché de plein fouet par la future AGCS, mais manifeste son mécontentement. Allez, il continue, salut.
L'ambiance à Montpellier, là, on vous donne l'ambiance à Montpellier. Salut fraternel aux fabuleux de Toulouse.
Il nous ment. Bonjour, c'est Laurence, enseignante en Seine-Saint-Denis. Voilà, on est des milliers dans la rue à Paris après 3 semaines de grève. On est plus en colère, on est carrément décidés et hyper motivés. On a retrouvé un peu de puissance politique et je crois que ça fait du bien. Et je pense que la vie va continuer. Et on sait maintenant que la décentralisation, on peut la faire bouger. Voilà, je voudrais rappeler à M. Raffarin que je n'arrêtais pas dans la rue, mais les gens peuvent encore dire non et ils sont aujourd'hui dans la rue. On est beaucoup, beaucoup à Paris. À bientôt.
Oui, bonjour, c'est Séverine de Toulouse. J'appelle suite à la manifestation d'aujourd'hui où nous avons été très nombreux. Je suis étudiante en première année d'UFM, donc assez concernée et surtout très inquiète. Voilà, c'était juste un témoignage pour dire que j'avais été très émue par l'ambiance qu'il y avait et surtout par cette chaleur humaine. Oui, parce que en fait, quand on arrive, à un moment, on est passé devant une caserne de pompiers qui eux aussi sont en grève, mais enfin là quand même. Et sous le soleil écrasant, parce qu'aujourd'hui il faisait très terriblement chaud, les pompiers nous ont arrosés avec les pompes à incendie. Et donc ça a été l'euphorie, des cris de joie, tout le monde s'est regardé, ça a redonné un coup de fouet à tout le monde. Et il y a eu un élan de solidarité, un élan d'humanité dans le mouvement qui était vraiment touchant et qui correspond tout à fait à nos revendications. Une des revendications qui vont contre un monde matérialiste, qui est contre la marchandisation de biens qui appartiennent à tout le monde.
Bonjour Daniel, c'est Jean-Philippe de Joigny à Auxerre à nouveau. On est plusieurs milliers, beaucoup de cheminots, de pompiers, de personnel hospitalier, de la DDE, des pros bien sûr. On fait beaucoup, beaucoup de bruit. On est quand même un peu fatigué, le trajet est moins long que d'habitude, mais on est encore motivé, donc les annonces d'hier n'ont pas suffi à calmer les esprits. Donc à suivre demain et après-demain et plus tard encore. À très bientôt Daniel, salut.
Je voulais dire à Monsieur Mermet que, comme semeur de merde, on fait pas mieux, que la France va sortir encore affaiblie de ça, qu'il va y avoir des licenciements partout dans les entreprises, que moi j'ai un gendre qui depuis 17 mois cherche du boulot, que j'ai une fille qui travaille dans une entreprise privée et qui ce matin a traversé tout Paris à pied, et que on entend sans arrêt uniquement les gens qui encouragent ce mouvement. Je trouve ça purement scandaleux. Heureusement qu'il y a à la fois le privé pour mes petits-enfants à l'école et les radios privées, mais vraiment France Inter, pour laquelle je paie une redevance en plus, qui est obligatoire, c'est ça dans l'administration. On est obligé de payer, on n'a pas le choix. Eh bien, je veux dire que je n'ai qu'une envie, c'est de voir des gens comme Mermet virer au plus tôt possible. Merci.
Allô, salut Daniel. Eh ben, tu sais, les grèves, moi je suis pour, et puis en plus je suis gréviste en ce moment. Mais alors qu'est-ce que c'est chiant de pas t'entendre à la radio. C'était le seul relais pour les mouvements de grève, c'était le seul relais pour les manifs, et en ce moment on est bien seul. Bon voilà, à bientôt, en espérant qu'au moins on pourra t'entendre, et puis que par ailleurs la lutte continue. Au revoir.
Bonjour, merveilleux répondeur de là-bas, si j'y suis, Annie Gréviste, de partout, bonjour. Il faut qu'on soit tous unis pour déterminer quel monde nous voulons, pour tous les êtres vivants de cette planète et pour l'avenir même de cette belle terre. Tous debout, avant de ne pouvoir plus se lever. Abuser, c'est assez, tous unis contre les mensonges des politiciens. Pas de laisser pour compte, c'est assez, quelle retraite auront-ils tous ces chômeurs qui font du bénévolat à plein temps, et tous ceux qui travaillent actuellement une année sur deux, deux années sur cinq, quatre mois sur 12, à 70%, à 40%. Mon mari a 49 ans, il totalise 10 ans de chômage sur 27 ans de carrière. Dans notre famille, sur 4 personnes en âge de travailler, je suis la seule et je suis à mi-temps. 3 chômeurs diplômés sur 4 adultes, ça vous dit quelque chose? Alors, quel présent, quel avenir, quelle retraite? Pour qui? Pour quand? Je vous pose la question.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Thierry Scharf et le monde diplomatique, une certaine marge de manœuvre. Flight number 2, arriving from...
Nous sommes la France. Retrait du camp Fillon. Grève générale interprofessionnelle. Retrait du camp Fillon.
Nanti, privilégié, paresseux, archaïque et ingrat. Voilà ce que vous êtes, bande de Français. 68% d'entre vous soutiennent le mouvement syndical. 68%, un chiffre en hausse. C'est bien la peine qu'il se décarcasse. Monsieur Raffarin et Monsieur Fillon et Monsieur Ferry et leurs médias avec leurs parents d'élèves en colère, leurs usagers pris en otage, leurs réformes courageuses, indispensables, évidentes et urgentes. Et bien malgré tout ça, 47% des Français, selon un sondage CSA publié aujourd'hui même dans l'hebdomadaire Marianne, souhaitent que Monsieur François Fillon rouvre les négociations. 21% veulent qu'il retire son projet et seulement 23% souhaitent que le projet soit maintenu. C'est absolument désespérant pour le roi de la com, Jean-Pierre et son bagou, Raph comme on l'appelait à Sciences Po quand il enseignait le marketing politique, et un bide qui est assez décourageant dans la mesure où un autre roi de la com, un autre champion de la com, monsieur Pierre Bédier, UMP, secrétaire d'État, a lui aussi de gros ennuis. Comme vous le savez, monsieur Pierre Bédier est mis en examen par le juge Courrois, soupçonné qu'il est d'avoir touché des enveloppes d'argent en argent liquide pour des affaires de marché public. C'est quand même assez fâcheux tout ça. Petite consolation au passage quand même pour monsieur Bédier, si par malheur très improbable, il devait aller en prison, bien il pourrait se retrouver dans l'une des nouvelles prisons qu'il est en train de faire construire un peu partout en France, puisqu'il est, rappelons-le, secrétaire d'État aux programmes immobiliers de la justice. Alors, nanti, privilégié, paresseux et ingrat français, malgré tout, nous sommes là aujourd'hui, en ce lundi de Pentecôte, pour donner des échos à ce qui se passe un petit peu partout dans notre pays, à la veille de la grande journée que sera demain. Et on va se retrouver, alors d'abord dans une manif, dans la rue, dans une manif, avec une manifestante, qui est une salariée de l'INSEE, qui va nous donner quelques précisions, puis après on retrouvera l'équipe du Monde Diplomatique autour du numéro de ce mois de juin 2003, un mois de juin particulier.
Alors, qu'est-ce que vous avez inscrit sur votre pancarte? INSEE, taxation des profits spéculatifs. Vous faites partie de l'INSEE.
Oui, oui, je suis statisticienne à l'INSEE, mais vous voyez, je suis aussi dans la manif,
sur
la défense de retraite.
Ouais. Donc vous avez des arguments de poids, des chiffres, non ?
Oui, enfin, c'est vrai que je suis absolument convaincue aussi du point de vue de mon métier, de la production de chiffres et de la réflexion sur les données statistiques, de ce qu'il est possible de financer les retraites à haut niveau, même en revenant sur la réforme Balladur, c'est-à-dire pour le privé comme pour le public, à haut niveau, à l'horizon de 2040, sans que ça soit insupportable pour l'économie, tout en étant tout à fait supportable par l'économie. Et ça, j'en suis convaincue aussi parce que, oui, je connais les données. Par exemple, l'INSEE produit ce qu'on appelle des projections de population active. C'est-à-dire que à partir de l'étude de l'évolution de la population dans le passé, on projette dans l'avenir l'évolution de la population. Donc on sait bien effectivement que la proportion des personnes âgées, ça c'est un secret pour personne, c'est une évidence, va augmenter fortement dans les années qui viennent. Le fameux baby boom qui va devenir un papy boom, ça c'est une réalité.
Ça c'est l'argument.
L'argument, voilà,
du gouvernement, oui.
C'est l'argument du gouvernement, donc ça c'est juste. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que, par exemple, ce qu'on appelle le ratio de dépendance, vous voyez, c'est le nombre de personnes âgées, le nombre de retraités sur le nombre de personnes actives. Quand on le calcule comme ça, effectivement, il va augmenter fortement. Et on se dit, ah là là, comment on va financer tout ça ? Mais quand on tient compte du fait, par exemple, qu'il y a des chômeurs dans les populations actives et qu'elles, elles produisent rien, au contraire, il y a des indemnités chômage. Donc quand on considère que la vraie dépendance, c'est les personnes qui ne travaillent pas sur les personnes qui travaillent, et je pense que c'est ça la réalité, eh bien, il va évoluer complètement différemment. Pas de façon aussi explosive que ce qu'on nous raconte. Ça, c'est un premier point. Et ça, c'est vraiment les chiffres que nous, on manipule, qu'on fabrique, qu'on étudie, qui prouvent ça. Le deuxième point, c'est que nous, on regarde aussi les chiffres passés. Il y a 6% des richesses qui étaient produites en 1960 pour les retraites. Et les retraités, à l'époque, étaient plutôt pauvres. Aujourd'hui, il y a 12% des richesses qui vont aux retraités. Et les retraités, du coup, sont un peu moins pauvres. Et ça, on a pu se permettre cette augmentation de la part des richesses pour les vieux au cours des 40 dernières années. Nous, on pense qu'on peut se permettre ça au cours des 40 prochaines années, parce que pendant cette période-là, si vous voulez, la production augmente fortement. Chaque année, si vous voulez, le revenu national, il progresse de 1,5 à 2%. Pourquoi on ne pourrait pas mettre, ne serait-ce que sur 1,5%, par exemple, que 0,5% pour tenir compte du fait que les gens vivent plus vieux? Hein, tout simplement, s'il y avait plus d'enfants, on trouverait ça normal de donner plus de richesses à l'éducation des enfants. Il y a plus de vieux, c'est normal que la part des richesses qui reviennent aux personnes plus âgées soit plus importante. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la part des profits dans la valeur ajoutée, dans la production de la France, a fortement augmenté depuis 20 ans. Ça, c'est une question de rapport de force, hein, parce que comme il y a beaucoup de chômeurs, eh bien, les salariés ont plus de mal à obtenir des augmentations de salaire, d'accord ? Donc du coup, c'est vrai qu'on le sait bien, maintenant, les entreprises ne manquent pas d'argent, ne manquent pas de profit. Et disons que les richesses qui sont produites chaque année, il y en a toujours un peu plus qui reviennent aux entreprises et un peu moins qui reviennent aux salaires. Et il n'y a pas de vraie raison, sinon le fait que comme il y a beaucoup de chômeurs, eh bien, les salariés ils se contentent de pas grand-chose. Et ça, c'est pas normal. Hein, une nation qui devient de plus en plus riche, qu'il y ait de plus en plus d'inégalités, on le voit bien, personne ne le conteste maintenant, qu'il y ait de plus en plus de personnes pauvres, et que on donne comme avenir aux futurs vieux qui se deviendront aussi de plus en plus pauvres, c'est absurde. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la richesse continue d'augmenter, enfin, on continue, même à un rythme ralenti par rapport aux années 60 peut-être, mais ça continue.
Sous d'autres formes peut-être.
Oui, alors ce qu'on entend peut-être par sous d'autres formes, c'est qu'il y a de plus en plus de profits qui ne sont pas réinvestis dans les entreprises, mais qui partent dans les flux financiers. Il y a beaucoup de spéculation, hein. Il y a le mouvement ATTAC dont vous avez certainement entendu parler, qui réfléchit beaucoup là-dessus.
Vous en faites partie, non ?
Oui, 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 mais à titre personnel.
Bien sûr, oui.
Oui, ouais, j'en fais partie. Et donc,
vous êtes membre d'un parti, de quelque
non,
chose
non,
d'autre
non, 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 je suis syndiquée. Oui. À la CGT, puis membre d'attaque, mais je ne fais pas partie d'un parti politique.
Vous qui possédez toutes ces données, parce que finalement c'est l'histoire économique de notre pays, hein, c'est quoi les chiffres, les évolutions les plus frappants de notre société, je sais pas, je dirais dans ces 15 dernières années?
Eh bien, écoutez, je vous les donnerai de mémoire, donc je peux m'en tromper d'un ou deux.
Hein,
je dis ça pour vos auditeurs, parce que eux, ils ont peut-être les chiffres sous les yeux. La part des salaires dans la valeur ajoutée, c'est-à-dire dans les richesses produites, en 82, de mémoire, hein, ça devait être dans les 69%. Aujourd'hui, ça
doit être... C'est-à-dire les salaires, c'est-à-dire...
Les salaires, plus les cotisations sociales, plus les cotisations patronales, plus les tout ce qui revient aux salariés, soit directement, en tant que salaire, soit indirectement, au travers de la cotisation pour les retraites, pour la maladie, etc.
Le fruit de notre travail.
Voilà. La part dans la valeur ajoutée, l'autre part, c'est les profits, hein, pour faire court. Ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation, mais peu importe, c'est des termes techniques. C'est les profits. Eh bien, la part des salaires, c'était donc 69% en 82, c'est 59% aujourd'hui. La différence, c'est quoi? C'est les profits. Et ça, ça, hein, 10 points.
Quel est l'autre chiffre frappant de cette dernière décennie, ou de ces deux dernières décennies?
Ben,
selon vous?
Oui, ben, je dirais en 40 ans, la production, les richesses produites chaque année par un pays comme la France a été multipliée par deux, hein, entre 1960 et 2000.
Alors, où vont ces richesses?
Eh ben voilà, hein, vous mettez ça à côté de l'autre chiffre que je vous ai donné, eh bien on a l'impression que ça va de plus en plus au profit et de moins en moins aux salariés, aux retraités, et particulièrement à la masse et à la masse des chômeurs aussi de plus en plus importante.
On n'a pas voté pour le libéralisme. On n'a pas voté pour le libéralisme. On n'a pas voté pour le libéralisme.
D'où votre petite pancarte derrière vous accrochée sur le sac à dos de l'INSEE. Alors INSEE, plusieurs syndicats, hein, qui est de l'INSEE. CGT, CFDT, FO, taxation des profits spéculatifs. Hein,
voilà.
Spéculatifs.
Tout à fait, parce que sans doute, bon, le capitalisme existe depuis longtemps, mais la dernière phase, depuis 20-30 ans, c'est ce qui est le plus marquant, c'est l'augmentation considérable de ces profits spéculatifs, des spéculations qui déstabilisent réellement le monde entier, les cracks boursiers, c'est ça, qui déstabilisent des pays entiers, qui endettent des pays entiers. Ce qui fait que le capitalisme d'aujourd'hui est beaucoup moins créatif et beaucoup plus destructeur qu'il ne l'a été sans doute dans le passé. Bon, donc ça c'est un premier point. Et l'autre point, c'est que maintenant ça va déstabiliser nos retraites de demain. Donc c'est pour ça que je suis dans la rue aujourd'hui. C'est parce que aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que si nos retraites sont amputées, ce qui va être le cas, moi j'ai fait des calculs pour mon petit cas à moi par exemple.
Vous pouvez pas vous en empêcher quoi.
Bah oui, forcément. Eh bien avant et après la Fillon, disons au bout de 10 ans de retraite, je perds 30%.
30%.
Ouais. Si, évidemment, si je prends ma retraite, comme j'ai l'intention, sans la réforme, c'est-à-dire au bout de 37 ans et demi, hein, c'est-à-dire non complète, avec la décote, etc., etc. Donc c'est la décote qui fait ça, plus le fait que l'augmentation de ma retraite sera sur les prix et non pas sur les salaires, comme avant. Donc cette baisse forte du pouvoir d'achat, qu'est-ce que ça va m'inciter? Moi qui suis cadre avec un salaire décent, qui me permet de mettre de l'argent de côté, ça va m'inciter évidemment à en mettre. Et donc à alimenter les fonds de pension. Et ces fonds de pension, par exemple aux États-Unis, au Japon, etc., c'est parmi les fonds les plus spéculatifs qui existent. Donc ça participe tout ça du même mouvement. C'est vraiment un choix de société.
Ok, bah c'était un vrai cours là. Hein.
Oui, j'espère que je me suis pas trompée sur les chiffres parce que j'avais pas sur moi mes petits cahiers, bouquins et voilà.
Un choix de société. Voilà, voilà ce qu'ont compris ceux qui, partout en France, vraiment partout en France, on l'a entendu sur le répondeur dans les petits reportables, eh bien, c'est un choix de société pour tous ceux qui sont dans la rue, en grève, qui manifestent et qui contestent et qui protestent depuis des semaines. Ils disent, on peut faire autrement, il faut renégocier, c'est ce qu'ils disent dans le sondage qui est paru aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, dans l'hebdomadaire Marianne. Ce sondage, c'est un sondage avec toutes les réserves qu'il faut évidemment faire quand on évoque un sondage. C'est très volatile, c'est très éphémère, mais enfin ça existe quand même, c'est un indicateur à un moment. Deux tiers des Français soutiennent ce mouvement et souhaitent des renégociations. Alors tout ça, bah, comment on l'a appris, on est devenu la dame de l'INSEE là qui, au débeauté, dans la rue, dans une manif, nous donne ses, non seulement des précisions basées sur des chiffres, mais aussi une analyse et une vision de nos sociétés. C'est pas seulement en France, vous le savez, actuellement, toute cette histoire de retraite est et cette avancée du néolibéralisme s'opère à l'échelle mondiale, puisque c'est la mondialisation. Mais enfin, il y a des manifestations actuellement en Autriche, en Allemagne, etc., en Italie, vous le savez. Alors, on a pu le savoir, par exemple, c'est une des sources, mais il y en a beaucoup d'autres, bien évidemment, dans le monde diplomatique. Et voilà pourquoi on va retrouver l'équipe du monde diplomatique autour du numéro de ce mois-ci, même si je crois on va pas parler du tout ou très peu de ce qu'il y a dans ce numéro. Nous sommes avec Dominique Vidal, avec Maurice Lemoine, avec Martine Bullard et avec Ignacio Ramonet. C'est le diplo. Autour du numéro de juin du monde diplomatique, on se retrouve tous. Et on va commencer, comme d'habitude, avec l'éditorial d'Ignacio Ramonet, où il est question du travail, des accidents du travail, des maladies professionnelles, et d'une petite expression que j'ai relevée, l'attaque répugnante contre le régime des retraites. Voilà ce que pense le monde diplomatique, à travers son directeur, de la crise en cours. Une attaque répugnante contre le régime des retraites.
Mais si j'étais le seul à le penser, je serais dans mon immense solitude. Mais je crois qu'il y a un certain nombre de personnes qui le pensent. Et je dois dire là, parce que l'édito donc est sorti au début du mois, en quelques jours, on a reçu quand même pas mal de courriers et, à propos de ce texte là, et en particulier un certain nombre, disons, de délégués d'organisations syndicales. Et qui ont même demandé l'autorisation à pouvoir le reproduire et à le distribuer sous forme de tract dans les manifestations. Alors évidemment, on n'écrit pas pour susciter la subversion.
Bien sûr que non. Pour s'appeler des journalistes.
Mais comme nous sommes pour la liberté d'expression et la circulation, la libre circulation des écrits, bien entendu, on a autorisé ces personnes qui nous ont demandé à ce que ce texte soit diffusé. Parce que malgré tout, ce texte part d'un constat, le constat d'une occultation. C'est-à-dire l'occultation tout de même d'un rapport de l'Organisation internationale du travail, laquelle d'ailleurs organisait un congrès le week-end dernier à Vienne sur les accidents du travail et sur la mort au travail. Je vous mets au défi de trouver un entrefilé dans la presse, un congrès de 4 jours avec des délégués du monde entier à Vienne sur les accidents du travail, sur la mort au travail. Hein, il n'y a pas un entrefilé dans la presse en parlant. Et donc plusieurs semaines avant ce congrès, l'Organisation internationale du travail, dont le siège est à Genève, une organisation tout à fait respectable, a publié un très gros dossier sur la mort au travail. Qu'est-ce qu'on y apprend? Rien de moins que ceci. Combien de personnes, d'après vous, meurent chaque année au travail, dans leur activité professionnelle? Eh bien, il y en a 2 millions. 2 millions dans le monde, 2 millions de salariés dans le monde qui meurent chaque année, hein, des conséquences des accidents de travail. Le nombre des accidents de travail est de 270 millions dans le monde. Donc, ce sont des chiffres, à mon avis, qui relativisent un peu tout ce débat. Pourquoi ? Essentiellement, les chiffres français également sont quand même assez spectaculaires. Moi, j'ai publié, selon les données de la Caisse nationale d'assurance maladie, qu'il y a en France 780 salariés par an qui meurent des conséquences des accidents de travail, 780. Mais un certain nombre de médecins du travail m'ont écrit pour me dire que c'était une erreur. Il y a, selon les derniers chiffres disponibles, 1340 salariés qui meurent chaque année d'accidents de travail. Ce qui donne à peu près 3 salariés par jour, chaque jour de l'année, qui meurent. Et quand on considère le nombre de victimes d'accidents de travail, qui s'élève à 1 350 000 accidents de travail en France, hein, par an, ça donne tous les jours, on compte tous les jours, pas 5 jours par semaine, tous les jours, en comptant 8 heures de travail par jour, ça donne 8 blessés par minute. C'est-à-dire le temps que va durer votre émission, il y aura à peu près 500 accidentés du travail. Eh bien, donc par conséquent, c'est quand même assez spectaculaire, et je m'interroge pourquoi, alors que le débat c'est quand même sur les retraites, sur comment on arrive à l'âge de la retraite, hein, alors que l'un des grands arguments finalement des autorités, c'est de dire mais la vie, l'espérance de vie est allongée, L'espérance de vie s'est allongée. On vivait avant jusqu'à 62 ans, etc. Donc maintenant, on vit beaucoup plus. Eh bien, il faut voir il faut réfléchir à comment on arrive à l'âge de la retraite, même dans nos pays développés, bien entendu. Eh bien, et quelles sont les conséquences de cela, hein? Parce qu'il faut penser, par exemple, actuellement, on essaie de rétablir l'âge de la retraite, finalement, de dire c'est finalement 65 ans, c'est quand même l'âge normal. Et on présente ça comme un progrès. Mais j'ai vérifié. Vous savez que 65 ans, c'était l'âge de départ à la retraite en 1905. En 1905, l'âge normal du départ à la retraite, c'était 65 ans. Savez-vous combien de salariés en 1905 atteignaient l'âge de départ à la retraite? 5%. Tous les autres étaient morts avant. Eh bien, aujourd'hui, si on fait des études sur comment on atteint l'âge de la retraite à 65 ans, c'est pas qu'on est vivant. Bien sûr qu'on est vivant aujourd'hui. Il y a des statistiques qui montrent que nous sommes vivants. Mais le nombre de maladies, le nombre de cancers, le nombre de maladies cardiovasculaires, le nombre de maladies liées à l'arthrite, le nombre de maladies liées à toutes sortes de Alzheimer, démence sénile, etc., dont nous avons des cas autour de nous en permanence, eh bien, ça montre bien que ce paramètre comptable technique de l'espérance de vie n'est pas suffisant. C'est la qualité de la vie. Et donc je pense que ce que nous avons voulu souligner, c'est un petit peu la dégradation malgré tout, et que le travail reste pénible. Les défenseurs des salariés au début du siècle, dans un journal qui s'appelait La Guerre sociale, tout un programme, parlaient de ces accidents de travail. Ils appelaient ça l'impôt du sang.
Une vraie précision qui confirme tout à fait ce que vient de dire Ignacio Ramone.
Martine Bula.
C'est que les ouvriers ont une espérance de vie à 60 ans qui est de 5 ans inférieure à celle des cadres. Mmh. Ça veut dire que pour eux, si on prolonge de 5 ans la retraite, enfin le moment où ils vont prendre leur retraite, leur temps passé à la retraite deviendra quasi, enfin, sinon nul, du moins très court, de plus en plus court. Mmh. C'est ça qui est aussi un scandale dans les décisions que vient de prendre le gouvernement.
Un montage entre des slogans et cet air sud-américain signé Antoine Chao. On se retrouve avec l'équipe du Monde Diplomatique toujours. Alors on a compris que une autre réforme des retraites est possible. Ça n'a pas été évident de comprendre qu'on pouvait faire autrement, que il y a des alternatives, il faut renégocier pour certains. Je le disais encore une fois à l'instant, selon ce sondage qui est quand même un événement important, 21% des Français pensent qu'il faut retirer complètement le projet, d'autres qu'il faut négocier. Mais comment? Quelles alternatives? Alors c'est vrai que c'est technique, c'est vrai que c'est pas forcément évident, c'est vrai que parfois il faut prendre un peu un crayon et pour comprendre, mais on a tous pigé que c'est une affaire de société, c'est une affaire de choix de société, ou bien on partage, ou bien on a une société de solidarité, ou bien on a une société de rivalité. Et c'est là que nous en sommes à choisir entre les deux. A-t-on encore le choix? Oui, oui, oui. Analyse, précision, Martine Bullard du Monde Diplomatique. Martine Bullard, même si on n'en parle pas dans le numéro de juin du Monde Diplomatique, je voudrais qu'on revienne sur les retraites. Vous aviez, dans le mois précédent, donné un long papier sur les retraites. Je voudrais que vous nous expliquiez d'une manière pédagogique, comme M. Raffarin sait le faire, c'est-à-dire communiquer et expliquer, ce que pourrait être cette réforme autrement. Une autre réforme est-elle possible?
Oui.
La réponse est oui. Bien, réponse merci. Est oui. Et bien, on va passer un disque.
Ma réponse est oui. Ce qui est vrai, c'est que si l'on part de l'idée de M. Raffarin et de la CFDT, qu'il ne doit pas y avoir un sou de plus consacré à la retraite, c'est ce qu'ils font, puisqu'ils diminuent les retraites pour les gens et ils allongent la durée de cotisation, ce qui fait que la facture est payée à 95% par les salariés. Donc, on met pas un sou de plus pour les retraites. Si on met pas un sou de plus pour les retraites, effectivement, il n'y a pas d'autre solution que celle que préconise M. Raffarin. Il faut même aller beaucoup plus loin, parce que tout le monde sait qu'il parle maintenant de 2008, donne rendez-vous après 2008 tous les 3 ans. Or, si on prend les rapports officiels, et si on reste dans la logique de M. Raffarin, ça veut dire pour la durée du temps de travail, la durée de cotisation, ce sera 9 ans de plus. C'est pas 2 ans de plus, c'est 9 ans de plus pour arriver à simplement maintenir les situations telles qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire déjà dégradées, ou augmenter ou baisser de 40% le niveau des retraites. Hein, actuellement, on est à une augmentation de 2 ans pour le privé, puis et de 3 ans pour le public, dans le projet de M. Raffarin, et une baisse de 20% des retraites. Donc, vous voyez bien que à partir de 2008, ils veulent remettre la sauce. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ils disent on prend rendez-vous dans 3 ans, après 2008. Donc, dans le cadre de M. Raffarin, il n'y a pas d'autre solution. Mais justement, il faut briser ce cadre-là. Pour une raison simple, hein, qui est la défense, comme je le disais tout à l'heure, la défense de la retraite de chacun d'entre nous, jeunes et moins jeunes, d'une part, et surtout parce que on ne peut pas avoir une société où d'un côté, on laisse les jeunes en chômage, sur le carreau, avec l'insécurité que ça suppose, avec le vide que cela suppose, quand on a 25 ans, que la perspective, c'est un petit boulot, voire pas de boulot du tout, on peut pas bâtir une société comme ça, on sait ce que ça donne, une société qui est bâtie.
Ça donne que le FN est le premier parti chez les jeunes.
Ça donne que le FN est le premier parti chez les jeunes, ça donne de l'insécurité parce qu'il y a pas, il y a un très beau texte dans le Monde Diplomatique de ce mois-ci, de Bourdieu, sur justement l'état d'esprit des chômeurs à propos d'un texte, d'une enquête faite en 1933, en Allemagne sur la montée du chômage en Allemagne. C'est un magnifique texte. On voit bien que quand il y a rien pas de perspective dans les têtes, il y a forcément de la violence dans la vie quotidienne. Donc on ne peut pas d'un côté dire on laisse ces jeunes sur le tapis et on fait travailler les vieux de plus en plus vieux. Enfin, c'est un système, une société absolument absurde et une société de violence qu'on se prépare. Donc il faut briser ce cadre-là. Briser ce cadre-là de façon, comme disait Ignacio Ramené tout à l'heure, de façon raisonnable évidemment. On ne va pas tout changer demain matin. Premièrement, je pense qu'il faut avoir bien conscience que dans l'ensemble des richesses créées en France, créées par les salariés, dans la production, dans les services, tous les salariés, tous les gens qui travaillent, pas seulement les salariés, d'ailleurs les petites entreprises, etc., l'ensemble des richesses créées dans la nation, la part des salaires a baissé de 10 points depuis 1980, en 20 ans. Autrement dit, la part des profits, hein, parce que les richesses créées se partagent entre les salaires, quand je dis salaires, c'est les salaires et les cotisations, bien sûr, les profits, l'investissement et les impôts payés, hein, grosso modo. Les impôts payés par les entreprises ont tendance à baisser, l'investissement est resté d'une façon assez plate, hélas d'ailleurs, et donc la part des profits n'a cessé de grimper. Donc, je propose pas une révolution le matin, mais simplement de progressivement reprendre sur la part des profits et revenir très sensiblement disons pas au niveau des années 80, peut-être pas d'un matin, mais gagner quelques points, 2-3 points de richesses créées, consacrées aux retraites. Ça, c'est la première chose. Donc, un nouveau partage des richesses. Deuxième élément, c'est les cotisations sociales payées par le patronat. Quand je dis le patronat, je parle de l'ensemble du patronat. Ces cotisations sociales destinées à la vieillesse ont stagné depuis 1980. Elles sont scotchées à 8,5%. En revanche, les cotisations payées par les salariés ont fortement grimpé, ce qui fait que naturellement, la part payée par le patronat a baissé. Contrairement à ce qu'on entend tout le temps. Donc, ce que propose un certain nombre de syndicats, d'associations, les syndicats, c'est la CGT, c'est Sud, c'est la FSU, mais c'est aussi la fondation, c'est ATAC, c'est la fondation Copernic, donc il y a plusieurs associations qui travaillent dessus, c'est d'augmenter progressivement, bien sûr, les cotisations patronales, là encore, pour arriver petit à petit, d'ici 20 ans, au même niveau qu'il y a 20 ans, donc de monter progressivement, ça fait aux alentours de 0,3% par an d'augmentation de cotisation sociale. Il n'y a pas de quoi.
Les petits patrons qui écoutent vont dire, oh, vraiment.
Mais vous avez raison parce que je pense.
Encore
que,
nous.
Oui, parce que vous avez raison parce que nous avons un système en France où ceux qui créent des emplois, ceux qui font essentiellement du travail, qui s'appuient essentiellement sur de l'emploi, paient relativement plus de cotisations que ceux qui font de la spéculation. Donc il faut, dans le même temps, engager, c'est un peu plus long, mais faut l'engager dès maintenant, engager une réforme des cotisations pour asseoir, pour que le calcul des cotisations ne se fasse plus uniquement sur le travail des salariés, mais se fasse sur l'ensemble des richesses créées de l'entreprise. Ce qui reviendrait, en gros, à faire payer plus les entreprises qui font plutôt de la spéculation, plutôt du placement financier, plutôt moins d'emplois et plus de machines, enfin plus de machines, et de faire payer moins les entreprises, qui effectivement les petites entreprises notamment, mais même les entreprises de main d'œuvre, qui elles aujourd'hui paient relativement plus. Donc ça fait troisième solution, c'est-à-dire de moduler en fonction des créations d'emplois. Ce n'est que justice. Si on veut défendre l'emploi, il fait effectivement que les entreprises qui créent des emplois paient relativement moins que celles qui en créent pas. Quatrième proposition, qui est venue par un certain nombre d'acteurs sociaux, est d'instaurer une CSG, vous savez, la contribution sociale généralisée que nous payons tous, mais de l'instaurer sur les revenus financiers des entreprises. Actuellement, il y a un certain nombre d'entreprises qui placent l'argent qu'elle a en surplus, qu'elle place sur le marché financier. Ça leur rapporte en gros 70 milliards d'euros par an. Donc, on propose une taxe, une CSG, qui soit sur ces revenus-là. Il y a bien une CSG qui est sur le revenu de chacun de nous, chaque fois qu'on a sur le salaire.
C'est une sorte de capitalisation, ça. C'est-à-dire
non,
que
justement.
Les retraites dépendraient de la spéculation.
Pas du tout. Donc, non, justement.
Donc,
Quel est l'avantage? D'abord, ça existe, ces revenus financiers des entreprises. Alors, on va pas faire une loi pour dire, désormais, les entreprises n'ont pas le droit de placer leur argent sur le marché financier. Évidemment, non. On n'est pas dans une société dirigiste. Elles existent. Donc, commençons par les taxer. Mais avec quel objectif? Un, de rapporter un peu d'argent. 70 milliards, c'est pas rien de revenus qui viennent juste de l'argent placé ailleurs. Et surtout, moins ça sera intéressant. Et moins il y aura d'argent qui ira se placer sur les marchés financiers. Plus vous taxez, alors il ne s'agit pas de taxer de façon éhontée, mais plus vous taxez ces revenus, moins les entreprises sont incitées à aller placer cet argent sur le marché financier, et plus ça réduira cet énorme robinet d'argent qui ne cesse d'aller, c'est ce qu'on a appelé d'aller sur les marchés financiers, c'est ce qu'on a appelé la bulle financière. Et si vous taxez les revenus, évidemment, ça devient un peu moins rentable. On propose pas de mesures absolument révolutionnaires qui feraient que l'on tarirait tout le matin. C'est de faire la même taxe que pour la CSG que paient les salariés, que paient les individus, c'est 10,3%. Enfin, il y a un cinquième élément.
Là, ce que vous avez dit jusqu'à là, on l'entend dans la rue. C'est taxer les revenus financiers, partage des richesses.
Oui, voilà. Oui, tout à fait. Et je voudrais dire quand même que la réponse de...
Vous développez les slogans de la rue, quoi.
Ben oui, parce que vous savez, moi je crois beaucoup à la créativité de la rue. Et je crois à la nécessité quelquefois d'experts, mais je ne suis pas pour qu'on dépose le pouvoir aux experts. Donc je suis pour la créativité de la rue, d'autant que les salariés, quand ils sont dans leur entreprise, ils voient bien comment ça se passe. Ils voient bien que quand on crée des emplois, les petites entreprises d'à côté, ben, elles paient relativement plus alors que la grande entreprise est connue pour recevoir des fonds et ne pas payer. Donc voilà, la créativité, elle vient de là. Moi, je crois qu'il faut effectivement prendre en compte ces besoins, bien sûr, regarder si c'est réaliste. regarder si c'est faisable. Et franchement, c'est tout à fait faisable sans poser de problème à la compétitivité. Alors, j'ai lu dans le Nouvel Observateur, et c'est un peu l'argumentation que développe Monsieur Soubi, qui est chargé par le gouvernement de faire la propagande du gouvernement sur les retraites. Si on augmentait les cotisations sociales, pour arriver à financer les retraites, il faudrait augmenter les cotisations de 58%. C'est absurde, évidemment. C'est absurde, mais c'est la même chose que ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le Conseil d'orientation des retraites dit si on ne faisait qu'augmenter les cotisations patronales, il faudrait les augmenter de 58%. Mais la rue dont vous parliez, et les acteurs sociaux dont on parle, ne proposent pas que ça. Ils proposent d'augmenter pour une part les cotisations, pour une autre part de changer le mode de fonctionnement pour que les petites paient moins. Ils proposent de taxer les revenus financiers. Ils proposent de remettre un petit peu de cotisation, mais vous voyez, je vous ai dit 0,03%, c'est quand même pas la mer à boire. Et enfin, je voudrais prendre un autre élément sur notamment les retraites des fonctionnaires. On nous dit les retraites des fonctionnaires, c'est indispensable de faire travailler les fonctionnaires jusqu'à 40 ans de cotisation parce qu'il y a un déficit public, du déficit budgétaire. Et en regardant un peu les calculs, on s'aperçoit que la baisse des impôts sur le revenu décidée par Monsieur Chirac entre 2001 et 2006, puisque c'est son... s'élève à 30 milliards d'euros. 30 milliards de rentes d'euros d'entrée en moins dans le budget de l'État. Si j'en crois, je n'ai pas recalculé, mais j'ai pris ce calcul dans Les Échos, qui me paraît un journal assez sérieux sur ce genre de questions. Donc 30 milliards. 30 milliards, c'est exactement les besoins de financement pour payer les retraites des fonctionnaires de l'État, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires de l'hôpital, enfin les hospitaliers. En fait, on veut faire payer aux fonctionnaires la baisse des impôts qu'on offre, si je puis dire, aux Français, entre guillemets, je dis les Français, parce que l'essentiel de la baisse des impôts bénéficie aux plus riches. On voit bien que plus vous payez d'impôts, entre guillemets, plus les baisses d'impôts sont fortes. Et en vérité, 80% des baisses d'impôts vont à 10% des ménages. Donc, on demande aux fonctionnaires de travailler plus pour payer la baisse des impôts. Ben là, ce qu'on propose, c'est geler le programme de M. Chirac, plus de baisse d'impôts, et on aura de quoi payer au moins jusqu'en 2020 la retraite des fonctionnaires.
Voilà, merci Martine Bullard et l'équipe du Monde Diplomatique. Le reportage était Thierry Schaff, la technique aujourd'hui c'était Clotilde Thomas et Pascal Baldassari, Joël Levert, Christophe Humbert, Koyen Guyen collaborent à cette émission avec le talent que nous savons. Et puis je vous signale donc le banquet du bac philo. C'est un enregistrement de là-bas si j'y suis. Et ce sera donc le jeudi 12 juin, jeudi prochain à 20h, à la maison de Radio France, avec les dessinateurs, avec les fabuleux troubadours, avec toute une bande de joyeux de riz qui vont devant vous en public passer, pour de rire un peu, mais pas toujours, pas seulement, les épreuves du bac philo qui seront distribuées le matin. Si vous voulez assister, eh bien, à cette soirée, vous pouvez venir retirer vos cartons d'invitation dans le grand hall de la maison de la radio, et ce, demain matin, à partir de 10h, le matin, dans ce grand hall. Merci à tous, c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Je rappelle le numéro du répondeur, c'est 01 56 40 37 37. Réclame.